Chapitre 2. Survivre.
Maman, on voit le port de Terrilville maintenant?
Kefria souleva sa tête douloureuse de l'oreiller. Selden se tenait sur le seuil de la petite cabine qu'il partageait à bord du Kendry. Elle ne s'était pas vraiment endormie. Elle s'était simplement lovée autour de son chagrin, tâchant de découvrir comment vivre avec lui. Elle regarda son fils. Il avait les lèvres gercées, les joues et le front rougi, irrités par le vent. Depuis ses mésaventures dans la cité ensevelie, il avait un regard distant, comme si, d'une certaine façon, il était perdu pour elle. Selden était son dernier enfant vivant, ce qui aurait dû l'amener à le chérir éperdument. Elle aurait dû vouloir le garder près d'elle tout le temps, mais, au contraire, son cœur s'était engourdi. Il valait mieux ne pas trop l'aimer. Comme les autres, il pouvait lui être enlevé à tout moment.
« Tu viens voir, c'est vraiment bizarre. »
Selden s'interrompit.
« Il y a des gens qui crient sur le pont. »« Je viens, »
dit-elle sur un ton là. Il était temps de faire front. Durant tout le voyage, elle avait évité de parler à Selden de ce qu'il pourrait découvrir. Elle balança les jambes hors de la couchette, repoussa ses cheveux en arrière, puis renonça. Elle les couvrirait d'un châle. Elle en trouva un, encore humide de sa dernière sortie sur le pont, le jeta sur sa tête et suivit son fils. Le temps était gris, la pluie persistante, comme de juste. Elle rejoignit les autres passagers qui regardaient en direction de Terrilville. Ni bavardage, ni remarque. Ils contemplaient en silence. Des larmes coulaient sur quelques visages. Le port de Terrilville était un cimetière. Les mâts des vaisseaux sombrés pointaient hors de l'eau. Le Kendry manœuvrait avec prudence pour éviter les épaves. Il ne se dirigeait pas vers le quai des Vives Nefs, mais vers un autre, remis à neuf. Les planches jaunes, propres, contrastaient singulièrement avec le reste, calciné et délavé par les intempéries. Des hommes étaient là pour les accueillir. Du moins espérait-elle que c'était pour les accueillir. Selden se pressa contre elle. Elle posa une main distraite sur son épaule. Des quartiers entiers de la ville n'étaient plus que des ruines noircies, des carcasses carbonisées de bâtiments qui luisaient sous la pluie. Le garçon s'appuya plus lourdement.
« Est-ce que grand-mère va bien ? »
demanda-t-il d'une voix étouffée.
« Je n'en sais rien, »
répondit-elle d'un ton là. Elle en avait assez de lui dire qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas si son père était en vie. Elle ne savait pas si son frère était en vie. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à Malta. Le Kendry avait sillonné le fleuve jusqu'à l'embouchure, sans résultat. Sur l'insistance acharnée de Rein, ils avaient fait demi-tour, avaient poursuivi les recherches en amont jusqu'à Troinous. Ils n'avaient découvert aucune trace du petit canot que Rein prétendait avoir aperçu. Kefria ne l'avait jamais dit tout haut, mais elle se demandait si Rein n'avait pas imaginé tout cela. Peut-être tenait-il tellement à ce que Malta soit vivante qu'il s'était raconté des histoires. Kefria était bien la première à le comprendre. À Troinous, Yann Irouprous avait embarqué sur le Kendry. Avant le départ de la Cité des Pluies, ils avaient envoyé un oiseau à Terrilville pour informer le conseil qu'on n'avait pas retrouvé le gouverneur, mais qu'on continuait les recherches. L'espoir était insensé, mais ni Kefria ni Rein ne pouvaient y renoncer. Durant cette traversée, Kefria avait passé toutes ses soirées sur le pont, les yeux perdus dans le crépuscule. À maintes reprises, elle avait cru apercevoir une petite embarcation sur le fleuve. Une fois, elle avait même vu Malta, debout, qui levait une main suppliante. Mais il s'agissait seulement d'un tronc mort arraché à la berge qui passait en flottant, pointant, désespéré, une racine en l'air. Même après que le Kendry avait quitté le fleuve, elle s'était obstinée à ses veilles nocturnes sur le pont. Elle n'avait pas confiance dans la vigie, elle se fiait davantage à ses yeux de mer. La nuit précédente, à travers une pluie torrentielle et glacée, elle avait entrevu un navire chalcédien que le Kendry avait facilement doublé. Le vaisseau était isolé, mais durant leur voyage, la vigie en avait signalé d'autres, des galères groupées par deux ou trois, et deux grands bâtiments chalcédiens. Ils n'avaient prêté aucune attention à la Vive Nef ou lui avaient fait une chasse symbolique. Qu'attendaient donc les envahisseurs? Convergeaient-ils vers l'embouchure? Vers Terrilville? Faisaient-ils partie de la flotte qui allait s'emparer des rivages maudits? Rein et Yannis étaient joints au capitaine dans ces vaines discussions, mais Kefria ne voyait pas l'intérêt de se perdre en conjectures. Malta, avait disparu. Sa mère ignorait si elle avait péri dans la cité ou sur le fleuve. L'incertitude la rongeait comme un chancre. Et saurait-elle jamais ce qu'il était advenu de Kyle et de Yémin? Elle voulait espérer qu'ils étaient toujours vivants, mais elle n'y parvenait pas. L'espoir, c'était une montagne trop raide à gravir. Elle redoutait de s'abîmer dans le désespoir quand l'espoir se révélerait vain. Elle vivait en suspens. Il n'y avait plus que cela désormais. Rein Houprous se tenait aux côtés de sa mère. La pluie trempait son voile. Le vent le plaquait sur sa figure. Voilà Terrilville, aussi ravagé qu'il s'y était attendu d'après les dernières nouvelles apportées à Troisnous par les oiseaux. Il chercha en lui une trace d'émotion à ce spectacle, mais il en était dénué.
« C'est pire que ce que je craignais, »
marmonna sa mère.
« Comment puis-je demander le soutien du conseil quand la ville est en ruine et la côte menacée par les Chalcédiens ?»
Une partie de leur mission consistait en effet à solliciter l'aide de Terrilville. Yannir Houprous avait souvent représenté les marchands du désert des pluies auprès de leurs parents, mais rarement pour une mission aussi grave. Après avoir présenté au conseil des excuses solennelles pour la disparition du gouverneur et de sa compagne, elle devait demander assistance au nom des Troisnous. La destruction de la cité des anciens était presque totale. Avec un travail considérable et prudent, des parties de la ville pourraient peut-être être rouvertes. En attendant, les familles marchandes qui dépendaient pour leurs négoces des objets étranges et merveilleux exhumés dans la cité se retrouvaient brusquement démunies. Et ces familles constituaient l'ossature de Troisnous. Privées des richesses de la cité des anciens, Troisnous n'avait plus de raison d'être. Si la ville tirait quelques moyens de subsistance de la forêt des pluies, les habitants n'avaient pas de champs pour cultiver des céréales ni élever du bétail. Ils s'étaient toujours nourris en faisant du troc avec Terrilville. On se ressentait déjà de l'interruption du commerce du haut Chalcédien. À l'approche de l'hiver, la situation ne tarderait pas à devenir désespérée. Rein connaissait la principale appréhension de sa mère. Elle croyait possible que ce désastre anéantisse le peuple du désert des pluies. La population avait diminué au cours des deux dernières générations. Les enfants étaient souvent morts-nés ou mouraient dans leurs premiers mois. Les autres avaient une vie plus brève que la normale. Rein lui-même ne s'attendait guère à vivre au-delà de sa 30e année. C'était une des raisons pour lesquelles les marchands du désert des pluies cherchaient à se marier avec leurs parents de Terrilville. Ces unions avaient plus de chances d'être fécondes et les enfants qui en étaient issus étaient plus résistants. Mais les gens de Terrilville, parents ou non, étaient moins disposés depuis deux générations à venir s'établir au désert des pluies. Les cadeaux à la famille d'une future épouse avaient augmenté en importance, en valeur et en nombre, comme en témoignait l'empressement de sa propre famille à effacer la dette d'une vive nef simplement pour assurer une femme à Rein. Malta disparut, Yannis savait que Rein ne se marierait jamais et qu'il n'engendrerait pas d'enfants. Les présents à la famille Vestrit auraient été inutiles. Avec l'appauvrissement de Troisnous, les familles des pluies auraient déjà du mal à nourrir leurs propres enfants, sans parler même de leur procurer des conjoints. Le peuple du désert des pluies pourrait bien s'éteindre à jamais. Alors Yanni venait à Terrilville pour expliquer la disparition du gouverneur et implorer secours. Les deux missions l'atteignaient profondément dans sa fierté. Rein la plaignait. Mais il était distrait par son propre chagrin. La disparition du gouverneur pouvait allumer une guerre qui entraînerait la destruction complète de Terrilville. La cité des anciens qu'il aimait était déjà détruite. Mais ces tragédies n'étaient qu'une goutte d'eau en comparaison de l'atroce chagrin qu'il éprouvait de la perte de Malta. Il avait causé sa mort. En l'amenant dans sa cité, il l'avait placé sur le chemin de la mort. Le seul être qu'il blâma plus que lui-même, c'était Tintaglia. Il se méprisait d'avoir à ce point idéalisé le dragon. Il l'avait cru capable de noblesse et de sagesse, il l'avait porté au nu, comme dernier représentant de sa race glorieuse. En réalité, Tintaglia n'était qu'un animal ingrat, égoïste et égotiste. Assurément, elle aurait pu sauver Malta si seulement elle avait voulu s'y employer. Par égard pour sa mère, il chercha à dire quelque chose de positif.
On dirait que certains ont commencé à reconstruire,
fit-il observer.
Oui, des barricades,
rétorqua-t-elle tandis que le navire approchait du quai. Elle avait raison. Le cœur serré, Rein remarqua que les hommes sur le quai étaient armés jusqu'aux dents. C'étaient des marchands, il en reconnut quelques-uns, et le capitaine du Kendry les saluait déjà en criant. Il entendit quelqu'un se racler la gorge, il sursauta et se retourna. C'était Kefri Avestrit, enveloppé dans un châle. Son regard alla de Reyn à sa mère.
« Je ne sais pas ce que je vais trouver à la maison, » dit-elle à mi-voix, « mais je vous offre mon hospitalité. »
Elle sourit tristement. « À condition que la maison des Vestrit soit toujours debout. »«
Nous ne voudrions pas abuser, » dit doucement Yanni. « Ne vous inquiétez pas pour nous. Il doit bien y avoir encore une auberge ouverte à Terrilville. »
« Il n'est pas question d'abuser, » insista Kefria. « Seldon et moi serions enchantés de votre compagnie. »
Reyn comprit alors que l'invitation était davantage qu'un échange de bons procédés.
« Ce n'est peut-être pas prudent de retourner seul chez vous. Je vous en prie. Laissez-nous arranger notre affaire et nous vous accompagnerons là-bas pour vous aider à vous réinstaller. »
« À dire vrai, je vous en serais très reconnaissante, »
admit humblement Kefria. Après un instant de silence, Yanni soupira.
« J'étais occupé de mes propres soucis. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ce que ce retour pourrait signifier pour vous. Je savais que ce serait douloureux, mais je n'ai pas envisagé le danger. J'ai été inconséquente.
« Vous avez vos propres fardeaux, » dit Kefria.
« Tout de même, »
déclara Yanni solennellement.
« Il faut que l'honnêteté prenne le pas sur la politesse. Pour un temps. Et pas seulement entre nous. Les marchands doivent se montrer francs les uns avec les autres si l'on veut survivre. Ah ça, regardez le grand marché. Il en manque la moitié. »
Alors que l'équipage effectuait les manœuvres d'accostage, Reyn promena les yeux sur les hommes qui se rassemblaient pour accueillir le navire et il reconnut Grag Tenira. Il ne l'avait pas vu depuis la nuit du bal d'été. Il fut surpris par la force des sentiments mêlés qui surgirent en lui. Grag était un ami. Et pourtant Reyn l'associait à la mort de Malta. La douleur l'accompagnerait-elle tout au long de sa vie? Apparemment, il devait en être ainsi. Le navire fut amarré, une planche de débarquement glissée sur le quai. La foule se précipita en avant et les questions se mirent à fuser de tous côtés. Reyn se fraya un chemin à travers les gens qui montaient. Sa mère, Kefria et Seldon le suivaient. Dès qu'il eut mis le pied sur le quai, il vit Grag devant lui.
« Reyn ?» fit celui-ci à voix basse.
« Oui. »
Il tendit une main gantée dont se saisit Grag pour l'attirer plus près. Il demanda sur un ton inquiet à l'oreille de Reyn.
« On a retrouvé le gouverneur ?»
L'autre réussit à secouer la tête. Grag fronça les sourcils et dit précipitamment
« Venez avec moi, tous, j'ai un chariot. J'avais posté depuis 3 jours un gamin sur le promontoire pour guetter le Kendry. Vite, il y a des bruits insensés qui courent à Terrilville dernièrement. L'endroit n'est pas sûr pour vous. »
Dessous son manteau, Grag sortit une capote d'ouvrier en loques.
« Couvrez votre costume du désert des pluies. »
Reyn resta un moment interdit. Puis il secoua la capote et la jeta sur les épaules de sa mère avant de confier celle-ci à Grag. Il prit Kefria par le bras sans cérémonie.
« Venez vite, en silence »
chuchota-t-il. Il vit qu'elle serrait plus fort la main de Seldon. Le garçon sentit que quelque chose clochait. Il écarquilla les yeux et leur emboîta précipitamment le pas. Ils laissèrent leur bagage à bord, pas moyen de faire autrement. La carriole de Grag était découverte, destinée à transporter des fardeaux plutôt que des passagers. Elle sentait fort le poisson. Deux jeunes gens musclés, vêtus de sarraux de pêcheurs, étaient allongés à l'arrière. Reyn fit grimper les femmes, tandis que Grag sautait sur le siège et prenait les rênes.
« Il y a une bâche de toile à l'arrière. Couvrez-vous-en, cela vous protégera un peu de la pluie. »«
Et nous cachera par la même occasion, »
fit remarquer Yanni aigrement. Elle aida Reyn à déplier et étendre la toile. Ils se blottirent tous dessous. Leur escorte s'assit à l'arrière de la carriole, jambes ballantes, et Grag fouetta la vieille Aridel.
Pourquoi le port est-il aussi vide ?
Demanda Reyn à l'un des pêcheurs.
Où sont les navires de Terrilville ?
Par le fond, ou partis à la poursuite des Calcédiens. Ils ont tenté un coup hier. Deux bâtiments ont approché le port avec 3 autres qui attendaient au large. Ophélie est sortie pour les chasser et nos navires l'ont suivi. Ça, Ils taillaient de l'avant, mais je suis sûr que nos navires les ont rattrapés. On attend qu'ils reviennent. »
Rain sentait que quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui le troublait. Alors que le cheval tirait le chariot, il entrevit la ville de dessous la toile qui claquait. On faisait un peu de commerce, mais il s'en dégageait une atmosphère de malaise. Les gens allaient à leurs affaires d'un pas pressé ou regardaient passer la carriole d'un air soupçonneux. Le vent portait la puanteur tenace de la marée basse et des bâtiments incendiés. Rain eut l'impression qu'il faisait un détour pour gagner la propriété des Ténira. Au portail, des hommes en armes firent signe à Grag d'entrer et refermèrent après le passage de la voiture. Le jeune homme arrêtait le cheval lorsque la porte s'ouvrit en grand. Naria Ténira et les deux sœurs de Grag sortirent en trombe, suivies par d'autres gens. Les visages étaient inquiets.
« Tu les as trouvés? Ils sont sains et saufs ?»
demanda la mère de Grag alors que Rain rejetait la bâche qui les couvrait. Selden descendit à toute vitesse de la carriole en criant
« Grand-mère, grand-mère !»
Sur le seuil de la demeure des Ténira, Ronica ouvrit tout grand les bras à son petit-fils. Le gouverneur Kosgo, héritier du trône de perles et de la toge de vertu, décolla de sa poitrine un long lambeau de peau fin comme de la pelure. Malta détourna les yeux et réprima une grimace.
« C'est intolérable !»
gémit le gouverneur pour la énième fois.
« Ma peau est dans un état, et dessous ces roses, quelle horreur! Mon teint est définitivement gâté !»
Il la regarda d'un air accusateur.
« Le poète Manque a comparé une fois la blancheur de mon front à l'opalescence d'une perle. Maintenant je suis défiguré !»
Malta sentit le genou de Keki dans ses reins. La compagne était allongée sur sa paillasse près du lit du gouverneur et Malta était accroupie sur le sol à côté d'elle. C'était sa place dans le petit abri. Elle grimaça à la pousser dans son dos endolori mais comprit l'avertissement. Elle chercha une réponse puis mentit.
À Terrilville, on dit que la femme qui se lave le visage une fois par an dans le fleuve du désert des pluies ne vieillira jamais. Le traitement n'est pas agréable, mais il est réputé pour conserver une peau jeune et un beau teint.
Keki laissa échapper un soupir approbateur. Malta s'en était bien sorti. Kosgo se rasséréna sur le champ.
Il faut souffrir pour être beau, mais je n'ai jamais reculé devant un petit inconfort. Tout de même, je me demande ce qu'est devenu le navire que nous devions rejoindre à l'embouchure du fleuve. J'en ai assez d'être ballotté dans tous les sens. Un vaisseau de cette taille n'est pas fait pour naviguer en pleine mer. »
Malta baissa les yeux et ravala une remarque sur son ignorance. Les Chalcédiens voyageaient des mois durant sur leurs galères. Leur aptitude à subsister de maigres rations et à supporter les rudes conditions de la vie à bord était légendaire. C'est ce qui faisait leur réputation de marins et d'envahisseurs. Voilà plusieurs jours qu'ils avaient quitté l'embouchure du fleuve. Le gouverneur avait été furieux de constater que le navire ravitailleur chalcédien n'était pas là pour le prendre. Malta avait été amèrement déçue de constater l'absence de vives nefs pour garder l'embouchure. Elle avait rongé son frein en affectant de croire que les vives nefs arraisonneraient la galère et la sauveraient. Le désespoir qui l'avait submergée alors que la galère continuait à voguer librement était insupportable. Elle avait eu la bêtise de rêver au sauvetage. Cet espoir n'avait fait que l'affaiblir. Elle le chassa rageusement de son cœur. Pas de vive nef, pas de reine partie à sa recherche, pas d'illusion. Personne n'allait apparaître comme par magie pour lui porter secours. Elle devinait que sa survie dépendait entièrement d'elle. Elle soupçonnait beaucoup de choses dont elle ne faisait pas part à Keki ni au gouverneur. Entre autres, la galère était mal en point. Elle canardait et embarquait beaucoup plus d'eau qu'elle n'aurait dû. Le fleuve du désert des pluies avait sans aucun doute entamé le brai des coutures et peut-être même le bordage. Depuis qu'ils avaient quitté le fleuve, le capitaine avait mis cap au nord, vers Chalcède. La galère serrait la terre. Si elle était désemparée, ils auraient au moins une chance d'atteindre la côte sains et saufs. Malta estimait que le capitaine faisait route vers son port d'attache et pariait qu'il y arriverait avec son navire et sa cargaison inattendue.
« De l'eau !»
croassa Keki. Elle ne parlait plus que rarement à présent. elle ne pouvait plus s'asseoir. Malta tâchait de la garder propre et attendait avec lassitude qu'elle meure. La bouche de la compagne était entourée de lésions qui se crevassaient et saignaient quand on portait une tasse à ses lèvres. Elle réussit à avaler une gorgée. Malta lui tamponna les commissures d'où s'écoulait une eau rougie. Kéki avait bu trop d'eau du fleuve pour pouvoir en réchapper, mais pas suffisamment pour connaître une fin rapide. Ses entrailles étaient probablement aussi ulcérées que sa bouche. Rien que d'y penser, Malta avait envie de rentrer sous terre. Malgré ses souffrances et sa faiblesse, la compagne tenait parole. Malta l'avait gardée en vie, on les avait secourus, et maintenant Kéki faisait de son mieux pour apprendre à Malta à survivre. Elle ne parlait que très peu, mais par de petits coups de coude ou des bruits, elle lui rappelait ses conseils. Certains de ces signes rendaient simplement la vie tolérable. Malta se devait de toujours réagir aux plaintes du gouverneur avec un esprit positif, ou bien en le complimentant sur le courage, la sagesse, la force et la patience qu'il montrait dans ses épreuves. Au début, les mots l'étouffaient, mais la manœuvre détournait effectivement Kosgo de ses pleurnicheries. Si elle devait rester enfermée avec lui, mieux valait l'amadouer. Elle savourait les heures qui suivaient le repas du soir, où après avoir fumé avec le capitaine, il était lénifié, somnolent et accommodant. Kéki avait donné des conseils plus précis encore. La première fois que Malta avait pris le seau d'aisance pour le vider, les matelots avaient sifflé entre leurs dents sur son passage. À son retour, l'un d'eux lui avait barré le chemin. Yeux baissés, elle avait essayé de le contourner. Hilard, il l'en avait empêché. Le cœur cognant dans sa poitrine, elle avait regardé ailleurs et fait une autre tentative pour passer. Cette fois, il l'avait laissé se faufiler, puis l'avait attrapé par derrière, lui avait pris un sein qu'il avait pincé très fort. Elle avait crié de douleur et d'effroi. Il avait ri, l'avait renversé contre lui, en la serrant si étroitement qu'elle pouvait à peine respirer. Il glissa sa main libre sous la chemise et lui prit l'autre sein. Les doigts calleux caressaient brutalement sa peau nue. Muette de saisissement, elle resta figée sur place. Il se contorsionnait contre ses fesses. Les autres l'observaient, goguenard, le regard allumé. Quand il se baissa pour soulever sa jupe, elle retrouva subitement la maîtrise de ses muscles. Elle tenait toujours le lourd seau en bois. Elle se tourna et le balança de toutes ses forces dans l'épaule du matelot. L'eau sale qui restait au fond du seau lui éclaboussa la figure. Il avait poussé un rugissement de dégoût et l'avait relâché malgré les huées de ses camarades. Elle avait bondi, regagné en courant leur abri de toile et s'était engouffrée à l'intérieur. Le gouverneur n'était pas là. Il était allé prendre un repas avec le capitaine. En proie à une terreur noire, Malta s'était recroquevillée par terre à côté de Kéki endormie. À chaque pas qu'elle entendait, elle croyait que c'était le matelot qui venait la chercher. Elle grelottait de peur, claquait des dents. Quand Kéki se réveilla, qu'elle vit Malta trembler dans son coin avec une cruche à la main pour toute arme, elle la persuada par la douceur de raconter ce qui s'était passé. Elle écouta gravement son récit haletant, puis elle secoua la tête. Elle s'exprima en phrases brèves pour épargner sa gorge et sa bouche.
« C'est mauvais. Pour nous tous, il devrait craindre de s'en prendre à vous, sans la permission de Kosgo. Mais ils n'ont pas peur. »
Elle s'interrompit pensive. Puis elle rassembla ses forces et respira.
« Il ne faut pas qu'ils vous violent. S'ils le font et que Kosgo ne proteste pas, ils vont perdre tout respect pour nous trois. Ne dites rien à Kosgo. Il s'en servirait pour vous forcer à obéir, pour vous menacer. »
Elle aspira avec peine un peu d'air.
« Ou il vous livrera à eux pour s'acheter leur faveur, comme Cérille. »
Elle reprit son souffle.
« Nous devons vous protéger pour nous protéger tous. »
Kéki tâtonna faiblement autour d'elle, ramassa un des chiffons que Malta utilisait pour lui essuyer la bouche.
« Tenez, mettez ça entre vos jambes, toujours. Si un homme vous touche, dites « Fâché j'y colle ». Ça veut dire « Je saigne ». Il s'arrêtera quand vous le direz, ou quand il verra ça.
Keki se pencha pour prendre de l'eau et but. Elle soupira puis se força à continuer.
« Les Chalcédiens redoutent les menstrues. Ils disent... »
Elle prit une respiration et esquissa un sourire qui découvrit des dents tachées de rose.
« Les parties génitales de la femme sont irritées et peuvent émasculer l'homme. »
Malta n'en revenait pas qu'on puisse croire une chose pareille. Elle regarda le chiffon strié de sang.
« C'est idiot !»
Keki haussa péniblement les épaules.
« Remerciez ça qu'il soit idiot. Ne répétez pas cela trop souvent, ils savent que vous ne pouvez pas saigner tout le temps. »
Puis son visage et ses yeux devinrent graves.
« S'il n'arrête pas, ne vous débattez pas. Il vous fera encore plus mal. »
Elle aspira un peu d'air.
« Ils vous feront mal jusqu'à ce que vous cessiez de vous débattre, pour vous apprendre votre condition de femme. »
La conversation avait eu lieu quelques jours auparavant. Ce furent les derniers mots suivis que Keki prononça. Elle s'affaiblissait de jour en jour et l'odeur dégagée par ses blessures devenait plus perceptible. Elle ne tiendrait pas longtemps. Par compassion pour la compagne, Malta souhaitait que la fin soit rapide, mais pour elle-même, elle redoutait sa mort. Lorsque Keki disparaîtrait, Malta perdrait sa seule alliée. Elle était lasse de vivre dans la peur, mais elle n'avait guère le choix. Chaque décision qu'elle prenait, c'était avec la peur au ventre, c'était le centre de sa vie. Elle ne quittait plus la chambre, sauf sur l'ordre express de Kosgo. Alors elle se dépêchait, revenait très vite en évitant de croiser le regard d'un homme. Et il continuait à la siffler, mais il ne la tourmentait plus quand elle vidait le seau d'aisance.
« Vous êtes ça, tout simplement fainéante !»
martela le gouverneur en haussant la voix. Malta le regarda en sursautant. Ses pensées l'avaient entraîné bien loin.
« Excusez-moi, »
dit-elle en se forçant à paraître sincère.
« Je disais que je m'ennuyais. Même la nourriture est insipide. Pas de vin, pas de quoi fumer, sauf à table avec le capitaine. Vous savez lire ?»
Elle acquiesça, déconcertée, et il lui ordonna
« Allez voir si le capitaine a des livres. Vous pourriez me faire la lecture. »
Sa bouche devint sèche.
« Je ne lis pas le Chalcédien. »
Vous êtes d'une ignorance sans nom. Moi, je comprends. Allez emprunter un livre pour moi. »
Elle tenta de masquer sa peur.
« Mais je ne parle pas Chalcédien. Comment vais-je le demander ?»
Il eut un reniflement de dégoût.
« Comment des parents peuvent-ils laisser leurs enfants dans pareille ignorance ? Terrilvie n'a-t-elle donc pas de frontière avec Chalcède ? On aurait pu penser que vous apprendriez au moins la langue de vos voisins. Maudits provinciaux ! Pas étonnant que Terrilvie ne s'entende pas avec eux. »
Il poussa un profond soupir en vraie victime.
« Eh bien, je ne peux aller le chercher moi-même avec ma peau qui pèle comme ça. Vous pouvez retenir quelques mots ? Frappez à la porte, agenouillez-vous, prosternez-vous, puis dites « Lanira Keyeloyen ».
Il débita les syllabes à toute allure d'une traite. Malta ne distingua même pas les mots séparés.
« Lanira Keyen ?»
répéta-t-elle.
« Non, saute, Lanira Keyeloyen. »
Oh, et ajoutez « Rekal » à la fin.
Il ne vous croit pas impoli. « Dépêchez-vous maintenant, avant d'oublier. »
Elle le regarda. Si elle l'implorait, il saurait qu'elle avait peur. Il exigerait de savoir pourquoi. Elle ne lui fournirait pas cette arme pour qu'il la force à obéir. Elle s'arma de courage. Peut-être que les matelots ne la tourmenteraient pas si elle se rendait à la cabine du capitaine. Au retour, elle aurait un livre dans la main. Cela pouvait la protéger. Ils hésiteraient à abîmer un objet appartenant à leur capitaine. Comme une psalmodie, elle marmotta les syllabes en quittant la pièce. Elle devait traverser toute la longueur de la galère entre les bancs de nage. Les sifflets et les claquements de langue la terrorisaient. Elle savait que son expression apeurée ne faisait que les encourager. Elle se força à répéter ses syllabes. Elle parvint à la porte du capitaine sans qu'aucun homme l'ait touchée, frappa et souhaita désespérément n'avoir pas frappé trop fort. Une voix masculine répondit sur un ton agacé. Priant qu'il lui ait dit d'entrer, Elle ouvrit la porte et passa une tête timide. Le capitaine était étendu sur sa couchette. Il se souleva sur un coude pour la dévisager d'un air courroucé.
« Lanira Keyeloyen !»
lâcha-t-elle d'une traite. Puis, se rappelant subitement les instructions du gouverneur, elle se laissa tomber sur les genoux et inclina la tête très bas.
« Récal !»
ajouta-t-elle un peu tard. Il répondit quelque chose. Elle osa lever les yeux. Il n'avait pas bougé. Il la considéra, puis répéta les mêmes mots en haussant la voix. Elle baissa les yeux, secoua la tête, priant qu'il devine qu'elle ne comprenait pas. Il se leva et elle se raidit. Elle lui jeta un bref coup d'œil et lui montrait la porte. Elle recula à quatre pattes, se remit debout, s'inclina très bas encore une fois et referma derrière elle. Dès qu'elle fut ressortie, les sifflets et les claquements de langue reprirent. L'extrémité du navire lui parut impossible à atteindre. Elle n'arriverait jamais entière. Serrant étroitement les bras autour d'elle, Malta se mit à courir. Elle était presque parvenue au dernier banc de nage quand quelqu'un l'attrapa à la cheville. Elle tomba brutalement, se cognant le front, les coudes et les genoux sur le bordage raboteux. Elle resta un instant étourdie, hébétée, puis elle roula sur le dos et regarda le jeune matelot qui la dominait en riant. Il était beau, grand et blond comme son père, avec des yeux bleus et francs, un sourire engageant. Il pencha la tête et dit quelque chose. « Une question ?»«
Ça va, je n'ai rien. »
répondit-elle. Il lui sourit. Elle fut tellement soulagée qu'elle faillit lui rendre son sourire. Alors il tendit la main et rabattit le devant de ses jupes. Il se baissa sur un genou et s'affaira à déboucler sa ceinture.
« Non !»
s'écria-t-elle farouchement. Elle essaya de se remettre debout, mais il lui prit la cheville et la renversa d'un geste désinvolte. Les autres se levaient pour mieux voir. Alors qu'il s'exhibait à ses yeux, les paroles de Kéki revinrent brutalement à la mémoire de Malta.
« Fâché, j'y colle !»
lâcha-t-elle.
« Fâché, j'y colle !»
Il parut interloqué. Elle repoussa ses cheveux en arrière. Il recula tout à coup, horrifié, avec une exclamation de dégoût. Elle s'en moquait éperdument. La ruse avait pris. Elle se dégagea d'une secousse, parvint à se relever, franchit en courant les quelques pas qui la séparaient de l'abri, s'engouffra sous le rabat et s'effondra par terre. Elle haletait, hoquetait, ses coudes la brûlaient. Elle cligna les yeux, quelque chose d'humide lui voilait la vue. Elle s'essuya. Du sang. La chute avait rouvert sa cicatrice. Le gouverneur ne souleva même pas la tête de l'oreiller.
« Et mon livre ?»
Malta reprit haleine.
« Je ne crois pas qu'il en ait, »
réussit-elle à répondre. Des mots calmes, une voix posée, ne lui montre pas ta peur.
« J'ai répété ce que vous m'avez dit, et il s'est borné à me montrer la porte.
« Comme c'est agaçant. Je crois bien que je vais mourir d'ennui sur ce bateau. Venez me frictionner les pieds. Je vais m'assoupir un peu. Il n'y a rien d'autre à faire, assurément. »
Pas le choix, se dit Malta. Le cœur cognant toujours dans la poitrine, la bouche si sèche que l'air passait à peine. Pas le choix, sauf à mourir en souffrant. Les genoux et les coudes écorchés à vif lui cuisaient. Elle retira une écharde de sa paume, puis traversa la petite pièce pour s'asseoir par terre au pied de Kosgo. Il lui jeta un coup d'œil, puis retira brusquement ses pieds.
« Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est ?»
Il regarda fixement son front.
« Je suis tombé. Ma blessure s'est rouverte, »
dit-elle simplement. Elle leva la main pour se toucher le front avec précaution. Ses doigts se poissèrent de sang et d'une sanie épaisse blanchâtre. Malta contemplait ses doigts horrifiés. Elle ramassa un des chiffons de Kéki, étancha son front. Ce n'était pas très douloureux, mais le pus imprégna rapidement le tampon. Elle se mit à trembler. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y avait pas de miroir. Elle avait évité de toucher sa cicatrice. Elle avait voulu l'oublier. À présent, elle passa les doigts sur la plaie. C'était sensible, mais pas autant qu'elle aurait pu croire avec tout ce sang et ce pus. Elle se força à palper la blessure. Une longueur d'index et le bourrelet, une largeur de deux doigts. C'était noueux, plissé et tendineux comme l'extrémité d'un os de poulet. Elle frissonna. Elle avait envie de vomir. Elle leva la tête vers le gouverneur.
« C'est comment ? »
demanda-t-elle à mi-voix.
Il ne parut pas l'entendre. « Ne me touchez pas. Allez-vous nettoyer et mettre un pansement autour. Pouah, je ne peux même pas regarder. Allez-vous-en !»
Elle se détourna, replia le chiffon et le pressa sur son front. Le linge se satura rapidement. Un liquide rosâtre coula sur son poignet jusqu'à son coude, et ça ne s'arrêtait pas. Elle fila s'asseoir à côté de Keki en quête d'un peu de camaraderie. Elle était trop effrayée pour pleurer.
« Et si je meurs à cause de ça ?»
gémit-elle. Keki ne réagit pas. Malta lui jeta un coup d'œil, puis la dévisagea de plus près. La compagne était morte.
Sur le pont, un matelot cria quelque chose d'une voix surexcitée. D'autres lui firent écho. Le gouverneur s'assit brusquement sur sa paillasse.
« Le navire ! Il aile le navire ! Peut-être y aura-t-il maintenant une nourriture convenable et du vin ? Malta, allez me chercher ! Oh, qu'avez-vous ? »
Il lui lança un regard irrité, puis suivit la direction de ses yeux vers le corps de Keki. Il soupira.
« Elle est morte, n'est-ce pas ?»
Il secoua tristement la tête.
« C'est bien fâcheux. »
Cérille avait ordonné qu'on lui apportât son déjeuner dans la bibliothèque. Elle l'attendit avec une impatience qui ne devait rien à la faim. La servante tatouée le disposa devant elle avec une application pleine de déférence qui portait sur les nerfs de la compagne.
« Laissez !»
dit-elle presque sèchement alors que la servante s'apprêtait à verser le thé. « Je m'occuperai du reste. Vous pouvez aller. N'oubliez pas que je ne veux pas être dérangée. »«
Oui, maîtresse. »
La femme baissa la tête stoïquement et se retira.
Cérille se força à rester immobile devant la table jusqu'à ce qu'elle entende la porte se refermer. Alors elle se leva vivement, traversa la pièce à pas de loup et mit le loquet. Un domestique avait écarté les rideaux, laissant pénétrer l'humidité et le vent du dehors. Elle les tira et s'assura que les bords se chevauchaient. Quand elle eut la certitude que personne ne pouvait pénétrer dans la pièce ni l'espionner, elle revint à la table. Dédaignant le repas, elle prit la serviette et, pleine d'espoir, elle la secoua. Rien. La déception l'étreignit. La dernière fois, le billet avait été plié discrètement dans la serviette. Elle ignorait comment Mingsley s'était arrangé, mais elle avait espéré qu'il la recontacterait. Elle avait répondu par un message laissé sous un pot de fleurs dans le potager abandonné derrière la maison selon ses indications. Elle avait constaté plus tard que le billet avait disparu. Mingsley aurait déjà dû répondre. À moins que tout ceci n'ait été qu'un piège combiné par Rhodes. Il soupçonnait tout et tout le monde. Il avait découvert le pouvoir de la cruauté qui le corrompait rapidement. Il était incapable de garder un secret, mais il accusait tout le monde d'être à l'origine des rumeurs qui infectaient et terrorisaient Terrilville. Il se rengorgeait en évoquant le sort qui frappait ceux qui s'opposaient à lui, tout en n'avouant jamais y avoir directement part.
« Le fils du cœur s'est fait rosser pour son insolence. Justice a été faite. »
Peut-être pensait-il par ce genre de phrase l'assujettir plus sûrement. Mais cela produisait l'effet contraire. Elle se sentait si glacée, si dégoûtée qu'elle était prête à tout désormais pour se libérer. Lorsque lui était parvenu le premier billet de Mingsley, proposant une alliance, elle avait été stupéfiée par son audace. Le papier avait glissé de la serviette sur ses genoux au cours d'un dîner avec les chefs du conseil. Mais si l'un d'eux avait été le messager, il n'y paraissait pas. Ce devait être un domestique. Il n'est pas difficile d'acheter ces gens-là. La réponse qu'elle devait donner la taraudait. Et il lui avait fallu une journée pour se décider, et quand elle avait enfin rédigé son billet, elle s'était demandé s'il n'était pas trop tard. Elle savait qu'on avait trouvé son message. Pourquoi n'avait-il pas répondu ? S'était-elle montrée trop prudente dans sa réaction ? Mingsley, lui, ne l'avait pas été. Le marché qu'il proposait sans détour l'avait tellement ahuri qu'elle avait eu toutes les peines du monde à converser avec ses hôtes pendant le reste de la soirée. Mingsley commençait par protester de sa loyauté à l'égard du gouverneur et de sa représentante. Puis il se lançait dans une série d'accusations contre ceux qui manquaient à cette même loyauté. il ne mâchait pas ses mots en révélant que des nouveaux marchands félons avaient eu l'intention de s'emparer du gouverneur dans la maison de Davad et qu'ils avaient même eu le soutien des nobles de Jamélia et des mercenaires chalcédiens à leur solde. Mais le projet avait fait long feu. Appâtés par la promesse d'un pillage immédiat, les chalcédiens qui avaient attaqué Terrilville avaient trahi l'alliance. Les nobles jaméliens qui les avaient soutenus étaient plongés dans leur propre conflit interne. Des imposteurs et des imbéciles prétendaient que les conspirateurs jaméliens allaient armer une flotte pour les aider et renforcer leur mainmise sur Terrilville. Minxley estimait la chose improbable. Les traditionnalistes à Jamélia étaient plus puissants que ne l'avaient cru les conspirateurs. Le complot avait piteusement échoué à la fois à Jamélia et à Terrilville grâce à l'intervention de la compagne. On savait avec quelle hardiesse elle avait enlevé le gouverneur. Le bruit courait qu'il se trouvait désormais sous l'aile protectrice de la famille Vestrit. Dans sa lettre bien rédigée aux termes mûrement pesés, Minxley poursuivait en affirmant que les nouveaux marchands honnêtes, dont il était lui-même, étaient plus que désireux de laver leur nom de tout soupçon et de récupérer leurs investissements à Terrilville. La compagne avait eu le courage de reconnaître l'innocence de Davad Restart, ce qui leur avait mis à tous du baume dans le cœur. La logique la plus élémentaire voulait que si Davad était innocent, ses anciens partenaires le soient aussi. Ces nouveaux marchands honnêtes, qu'on avait mal jugés, étaient fort impatients de négocier une paix avec les premiers et d'établir leur fidélité sans faille au gouverneur. Ensuite, il exposait son marché. Les nouveaux marchands loyalistes souhaitaient que Ceri intercède en leur faveur auprès du conseil. Mais elle devait au préalable se débarrasser de cette tête brûlée sanguinaire, Rhode Cairn. Ce n'était qu'à cette condition qu'il traiterait avec elle. En échange, Minxley et ses loyalistes lui fourniraient la liste des nouveaux marchands qui avaient comploté contre le gouverneur. La liste comprendrait les noms des conspirateurs jaméliens haut placés, ainsi que les seigneurs chalcédiens impliqués. Il insinuait, sans grande subtilité, que cette liste gardée secrète avait une valeur considérable. Une femme en possession d'une telle information pourrait vivre dans l'aisance et l'indépendance jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle décide de rester à Terrilville ou de retourner à Jamélia. Minxley était très bien renseigné sur elle. Dans sa réponse, Ceri s'était montrée réservée. Elle n'avait pas nommé le destinataire, elle n'avait pas signé. Sur une simple feuille de papier, elle avait succinctement reconnu qu'elle trouvait la proposition intéressante et tentante. Elle avait insinué que certains de ses alliés du jour seraient accessibles à la négociation. Pourrait-il fixer une heure et un lieu de rendez-vous? En rédigeant le billet, elle s'était appliquée à réfléchir froidement. Dans ce genre de manœuvre politique, il ne s'agissait pas de vérité et guère plus de morale. Seule comptait la position et l'attitude. Elle avait appris cette leçon du vieux gouverneur. Aujourd'hui, elle tâchait d'appliquer la lucidité du vieux souverain à la situation. Minxley avait été impliqué dans le complot visant à enlever le gouverneur. Sa connaissance approfondie des faits le trahissait. Mais sa fortune avait tourné et il souhaitait maintenant renverser ses alliances. Elle y aiderait dans la mesure du possible. Il ne pouvait y avoir que profit pour elle, d'autant qu'elle était en train de faire la même chose. Elle utiliserait la coopération de Minxley comme entremise pour asseoir son crédit auprès de Ronica Vestrit et des autres membres du conseil qui partageaient ses opinions. Si elle déplorait que la marchande ait quitté la maison, elle ne regrettait pas de l'avoir averti et de lui avoir ainsi permis de s'enfuir. Déjouer les projets de Rhode Cairn lui avait insufflé la petite dose de courage qui lui était nécessaire pour reprendre sa vie en main. Quand le moment serait venu, elle ferait savoir à Ronica qu'elle était celle qui l'avait aidée. Ceri eut un sourire sardonique. Elle pouvait, si elle le décidait, faire comme Minxley. Arranger tous ses actes de façon à se présenter sous un jour plus flatteur. La marchande lui aurait été bien utile à cette heure. Cet imbroglio d'accusations, de suspicions était difficile à démêler. Beaucoup de choses dépendaient de ce que Minxley savait ou soupçonnait. Ronica avait le don de débrouiller tout cela. Et le don de la faire réfléchir. Ses paroles lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle pouvait être façonnée par son passé sans en être prisonnière. À un certain moment, Elle avait considéré ces mots sous le seul aspect du viol. Maintenant, adossée à son siège, elle élargit son interprétation. La compagne du gouverneur. Fallait-il que ce titre détermine son avenir? Ou pouvait-elle l'écarter et devenir une femme indépendante de Terrilville?
Je suis désolé de vous presser, s'excusa Gragg en pénétrant dans la chambre qu'occupait Rain, les bras chargés de vêtements. Il referma la porte d'un coup de pied.
Mais les autres sont réunis et attendent. Certains sont ici depuis l'aube. Plus ils attendent, plus ils s'impatientent. Voici des vêtements secs. Vous devriez en trouver à votre taille. Les vôtres ne m'allaient pas mal quand j'ai joué aux visiteurs du désert des pluies pour le bal.
Il dut voir Rain grimacer car il se hâta d'ajouter
« Je regrette. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Désolé pour ce qui s'est passé avec la voiture, et je regrette que Malta ait été blessée. »
« Oui, bon. Cela ne change pas grand-chose pour elle maintenant, je crois. »
Rain se rendit compte de la dureté de ses paroles.
« Excusez-moi, je ne peux pas en parler. »
Il s'efforça de s'intéresser aux vêtements. Il prit une chemise à manches longues. Il n'y avait pas de gants. Et il devrait remettre les siens qui étaient mouillés. Et le voile aussi. Peu importait. Rien n'importait vraiment.
« Malheureusement, vous allez être obligé d'en parler. »
La voix de Gragg était empreinte d'un regret sincère.
« C'est votre lien avec Malta qui a attiré tout cela sur vous.
Le bruit court en ville qu'elle a enlevé le gouverneur ou qu'elle a facilité sa fuite. Rodkern a répandu la rumeur qu'elle l'a probablement livrée aux Chalcédiens parce qu'elle est Chalcédienne elle-même et... taisez-vous !»
Rain respira profondément.
« Un instant, s'il vous plaît. » dit-il d'une voix sourde.
Quoique voilé, il tourna le dos à Gragg. Il inclina la tête et serra les poings, espérant que les larmes ne couleraient pas, que sa gorge ne se serrerait pas à l'étouffer.
« Je suis désolé, » répéta Gragg.
Rain soupira.
« Non, c'est à moi de présenter des excuses.
Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir par quoi je suis passé. » Je suis même surpris que vous ayez entendu parler de quelque chose. Écoutez. Malta est morte. Le gouverneur est mort.
Un rire saugrenu lui monta aux lèvres.
Je devrais être mort. Je me sens mort, mais non.
Écoutez. Malta s'est rendue dans la cité ensevelie à cause de moi. Il y avait un dragon. Le dragon était entre deux vies. Dans un cercueil ou une sorte de cocon, je ne sais pas comment appeler ça. Le dragon me tourmentait, hantait mes rêves, influençait mes pensées. Malta le savait, elle voulait que cela cesse.
Un dragon?
Le doute de Gragg portait à la fois sur le mot dragon et la santé mentale de Rain.
Je sais que c'est une histoire de fou,
s'exclama-t-il farouchement.
Ne me posez pas de questions et ne prenez pas cet air sceptique. Contentez-vous d'écouter.
Il relata rapidement tout ce qui s'était passé ce jour-là. En achevant son récit, il leva les yeux sous son voile pour soutenir le regard incrédule de Gragg.
« Si vous ne me croyez pas, demandez au Kendry. Lui aussi, il a vu le dragon. Cela l'a changé. Depuis, il est morose, il recherche sans cesse l'approbation de son capitaine et sa proximité. Il nous a causé bien du souci. »
D'une voix radoucie, Rain poursuivit.
« Je n'ai pas revu Malta. Ils sont morts, Gragg. Il n'y a pas eu de complot pour enlever le gouverneur à Troynous. Seulement une jeune fille qui a essayé de réchapper à un tremblement de terre. Elle n'a pas réussi. Nous avons fait des recherches le long du fleuve, deux fois, aucune trace d'eux. L'eau a rongé le bateau et ils ont péri. C'est une horrible façon de se noyer. »
« Par le souffle de ça, »
dit Gragg en frissonnant.
« Rain, vous avez raison, je ne savais pas. À Terrilville, on n'entend que des rumeurs contradictoires. On a appris que le gouverneur avait disparu ou péri dans le tremblement de terre, puis on a dit que les Vestrit l'avaient enlevé pour le vendre aux Chalcédiens ou le livrer aux nouveaux marchands qui veulent l'assassiner. Ronica s'est cachée ici avec nous.
Cairn a fait courir le bruit qu'il fallait l'arrêter et la retenir prisonnière. En d'autres temps, nous aurions persuadé Runica d'aller devant le conseil et d'exiger d'être entendue. Mais dernièrement, il y a eu de terribles représailles contre les gens que Cairn a accusés de trahison. Je ne sais pas pourquoi la compagne lui fait une telle confiance. Le conseil est divisé car certains affirment que nous devons l'écouter en sa qualité de représentante du gouverneur, alors que mon père et moi nous estimons qu'il est temps pour Terrylville de se faire sa propre opinion. Il respira. Doucement, comme s'il craignait de blesser davantage Rayne, il ajouta « Rhodes dit que les Vestrites ont comploté avec les Chalcédiens. Selon lui, les pirates n'ont peut-être jamais pris leur vive nef. Il insinue que Kyle Havre faisait partie de cette conspiration, qu'il a emmené la Vivacia sur le fleuve du désert des pluies pour aller chercher le gouverneur et Malta. Nous sommes trop nombreux à savoir que c'est un mensonge, alors il a changé de refrain, en prétendant que ce n'était pas forcément une vive nef, mais un navire chalcédien, peut-être.
« Rhodes est un imbécile !» intervint Rayne. « Il ne sait pas de quoi il parle. Nous avons eu des vaisseaux, chalcédiens ou autres, qui ont tenté de remonter le fleuve. Mais l'eau les ronge. Ils ont usé de tous les moyens que nous savons bien être inefficaces. Ils ont graissé les coques, les ont calfatés. Il y a même eu un navire recouvert de terre cuite. »
Rayne secoua sa tête voilée.
Ils périssent tous, qui rapidement, qui lentement. D'ailleurs, il y avait des vives nefs qui patrouillaient à l'embouchure du fleuve depuis que tout a commencé. On les aurait vus.
Grac fit la grimace.
Vous avez plus confiance que moi dans nos patrouilles.
Il y a eu une attaque des navires chalcédiens. On les a débordés du port et pendant notre absence, une autre vague est arrivée. Ça m'étonne que vous soyez passé aussi facilement.
Rayne haussa les épaules.
Vous avez raison, j'imagine. Quand le Kendry a atteint l'embouchure, il n'y avait pas une seule vive nef en vue. Nous avons repéré plusieurs vaisseaux chalcédiens sur notre route. La plupart nous ont parés. Les vives nefs ont bonne réputation maintenant grâce à votre Ophélie. Un navire chalcédien a eu l'air de s'intéresser à nous la nuit dernière, mais le Kendry l'a rapidement distancé.
Un silence tomba entre eux. Rayne tourna le dos et retira sa chemise humide. Pendant qu'il en enfilait une sèche, Grac reprit.
« Il se passe tant de choses, je ne saisis pas tout. Un dragon ?»«
D'une certaine façon, il est plus facile de croire à l'existence d'un dragon qu'à la mort de Malta.
Quand j'y pense, je ne garde que cette image d'elle, cette nuit-là, dans vos bras sur la piste de danse. »
Rayne ferma les yeux. Un petit visage blanc tourné vers le ciel le regardait fixement depuis une coquille de noix emportée sur le fleuve. « Je vous envie, » dit-il à mi-voix.
« C'est toi la marchande des Vestrites. Tu décides pour la famille. Si tu ne souhaites pas être mêlé à tout ça, je comprends. Mais en ce qui me concerne, je reste ici. »
Runica respira.
« Je prends cette position en mon nom seul, mais sache, Kefria, que si tu décides d'aller au conseil, je serai aussi à tes côtés. C'est toi qui dois faire part de notre point de vue là-bas. Le conseil ne m'a pas laissé parler sur l'affaire de la mort de Davad. Ils refuseront certainement de m'entendre sur ce sujet. Néanmoins, je serai à tes côtés quand tu interviendras, et j'en accepterai les conséquences. »
« Et je raconterai quoi ?»
demanda Kefria sur un ton las.
« Si je leur dis que je ne sais pas ce qu'il est advenu de Malta sans parler même du gouverneur, cela aura l'air d'une tromperie. »
« Tu as une autre possibilité. Selden et toi pouvez fuir Terrylville. On vous laissera tranquille au moins un certain temps à la ferme des âtres. À moins que quelqu'un ne décide de se gagner les bonnes grâces de Ceri et Cairn en te donnant la chasse jusque là-bas. »
Kefria mit la tête dans ses mains. Indifférente à ce qu'on pourrait en penser, elle posa les coudes sur la table.
« On n'agit pas de cette façon à Terrylville. On n'en viendra pas là. »
Elle attendit une approbation, mais personne ne répondit. Elle releva la tête et regarda les visages graves qui lui faisaient face.
Tout allait trop vite.
On lui avait laissé le temps de prendre un bain, et elle avait passé une robe propre empruntée aux femmes Ténira.
Elle avait pris un repas frugal dans sa chambre, puis on l'avait appelée à cette réunion. Elle n'avait eu que peu de temps pour parler avec sa mère.
« Malta est morte.
lui avait-elle dit quand Ronica l'avait accueillie en l'embrassant. Elle s'était raidie dans les bras de sa fille, avait fermé les yeux. Quand elle les avait rouverts, Kefria y avait lu le chagrin qu'elle éprouvait de la perte de sa rebelle petite fille. Un chagrin sans larmes qui étincelait comme de la glace, froid, inaltérable, infrangible. Un bref instant, elles avaient partagé leur douleur, et chose curieuse, cette minute avait ressoudé la fêlure qui les séparait. Mais alors que Kefria avait envie de se blottir quelque part dans un coin, jusqu'à ce que passe cette souffrance incompréhensible, sa mère tenait absolument à ce que la vie continue. Pour elle, vivre signifiait aussi lutter, lutter pour Terrilville et l'avenir de Seldon. Ronica l'avait accompagnée à sa chambre, l'avait aidée à se changer tout en lui exposant rapidement la situation. Les mots bourdonnaient aux oreilles de Kefria, glissaient sur elle. Paralysie du conseil, terreur que faisaient régner Rode Cairn et une poignée de jeunes marchands sur ceux qui n'étaient pas d'accord avec leurs idées, nécessité de créer une nouvelle instance dirigeante pour Terrilville qui serait composée de tous les habitants. Une conférence sur la politique, c'était bien la dernière chose dont Kefria eut envie ou besoin à cette heure. Elle hochait machinalement la tête d'un air hébété jusqu'à ce que Ronica la quitte pour aller discuter avec Yannir Rouprous. Un bref moment de paix et de solitude. Puis elle était descendue, accompagnée de Seldon, pour trouver cette assemblée hétéroclite dans le grand salon de la demeure des Ténira. Les gens réunis autour de l'immense table composaient un tableau insolite. Les Ténira occupaient une rangée de chaises. Puis près d'eux s'alignaient les représentants de 6 familles de marchands au moins, parmi lesquels Kefria reconnut Devouché et Riche. Elle ne connaissait pas les noms des autres. Les présentations lui avaient échappé. Ensuite venaient 2 femmes et un homme au visage tatoué et 4 personnes qui, à en juger par leurs vêtements, étaient des immigrés de 3 navires. Puis Rain et Yanni, et complétant le cercle, les 3 Vestrites. Kefria se retrouva à la gauche de Naria Ténira. La marchande avait tenu à ce que Seldon prît place autour de la table et l'avait exhorté à écouter de toutes ses oreilles.
« C'est de ton avenir qu'il va être question, mon garçon. Tu es en droit d'assister à la séance. »
D'abord, Kefria avait cru que Naria cherchait simplement à inclure le petit garçon et à le rassurer sur son importance. Depuis qu'ils avaient quitté Troisnous, Seldon était toujours dans les jupes de sa mère, il était devenu renfermé. Il paraissait beaucoup plus jeune que le garçon qui s'était si rapidement adapté à la cité dans les arbres. Maintenant, elle se demandait si les paroles de la marchande Ténira n'étaient pas prophétiques. Seldon écoutait avec une rare concentration. En le regardant, Kefria avoua « Je suis trop fatigué pour m'enfuir de nouveau, quoi qu'il arrive, nous devons faire face. »
« Faire face ne suffit pas, » corrigea Naria. « Il faut contester. La moitié des gens ici sont si empressés à se terrer dans les ruines qu'ils ne mesurent pas le pouvoir que Ceri et son lèche-botte de Cairn se sont arrogés. Nous avions bien commencé à rétablir l'ordre. Ensuite, les événements se sont précipités. Le marchand Duiker a convoqué une réunion. Il a entendu dire que Ceri négociait une trêve avec les nouveaux marchands sans tenir aucun compte du conseil. Les membres ont condamné cette initiative à l'unanimité. Cairn a nié au nom de Ceri. C'est alors qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient devenus très proches.
Elle marqua une pause et reprit son souffle.
Duiker a été retrouvé plus tard, battu à mort. Il n'a pas pu parler avant de mourir. Un autre chef du conseil a vu sa grange incendiée. Dans les 2 cas, on a accusé les nouveaux marchands et les esclaves, mais d'autres bruits plus sinistres encore courent en ville.
Une esclave prit la parole.
« Vous apprenez ce qui affecte les marchands, mais les tatoués ont subi bien pire, »
dit-elle sur un ton sévère.
« Des gens ont été agressés alors qu'ils étaient sortis simplement pour faire du troc ou acheter à manger. Des familles entières ont été brûlées vives. Tous les crimes commis à Terrilville nous sont imputés, et on ne nous donne pas le moyen de prouver notre innocence. Cairn et sa bande sont connus et redoutés de tous. Les familles de nouveaux marchands les plus vulnérables ont été attaquées chez elles. On met le feu la nuit à leur maison et les gens qui fuient jusqu'aux enfants tombent dans des embuscades. Une façon lâche et sournoise de faire la guerre. Nous ne portons pas les nouveaux marchands dans notre cœur. Ils ont fait de nous des esclaves, mais nous ne voulons pas participer au massacre des enfants. »
Elle soutint le regard des marchands autour de la table.
« Si vous n'êtes pas capable de maîtriser Cairn et ses hommes de main,
vous perdrez la possibilité de vous allier avec les tatoués. Le bruit court parmi nous que le conseil cautionne Cairn. On dit que quand les marchands auront repris le contrôle de la ville, on nous embarquera de force avec les nouveaux marchands et que nous retrouverons nos chaînes. »
Ronica secoua la tête.
« Terrilleville est devenue une ville fantôme, en proie aux rumeurs. Aux dernières nouvelles, Ceri aurait nommé Cairn chef de la garde municipale, et il aurait convoqué une réunion secrète avec les derniers chefs du conseil. Ce soir, si nous parvenons à un accord aujourd'hui, nous y assisterons tous pour mettre un terme à ces folies et aux violences de Cairn. Terrilleville a-t-elle jamais été régie par des réunions secrètes ?»
Un barbu roux de trois navires intervint.
Les faits et gestes du conseil des marchands ont toujours été tenus secrets pour nous.
Kefria le regarda, perplexe.
Il en a toujours été ainsi. Les affaires des marchands ne concernent qu'eux,
expliqua-t-elle simplement.
L'homme Rubicon s'empourpra davantage.
Gouverner la ville entière, c'est ce que vous appelez les affaires des marchands. C'est ce qui force les gens de trois navires à vivre en marge.
Il secoua la tête.
Si vous voulez qu'on soit de votre côté, alors il faut que ce soit à votre côté, pas derrière un mur, ni au bout d'une laisse.
Elle le regarda, les yeux écarquillés, dans une totale incompréhension. Un trouble profond l'envahissait.
On était en train de démanteler la Terrilleville qu'elle avait connue, et les gens dans cette pièce paraissaient disposés à accélérer le processus.
Sa mère et Yanniru Prous étaient-elles devenues folles? Allait-on détruire Terrilleville en voulant la sauver? Songeait-on sérieusement à partager le pouvoir avec des esclaves affranchis et des pêcheurs?
Yanniru Prous prit calmement la parole.
« Je sais que mon amie Ronica Vestrit partage votre sentiment. Elle m'a dit que les habitants de Terrilleville qui ont les mêmes buts doivent s'allier, qu'ils soient ou non marchands. »
Elle marqua une pause et tourna son visage voilé pour embrasser du regard l'assistance autour de la table.
« Malgré tout le respect que je porte aux gens présents ici et aux opinions d'amis très chers, je ne sais si c'est possible. Les liens de sang qui unissent les marchands de Terrilleville à ceux du désert des pluies sont anciens. »
Elle s'interrompit. Elle haussa les épaules de façon éloquente.
« Comment peut-on offrir cette loyauté à d'autres ? Peut-on l'exiger en retour ? Vos groupes sont-ils disposés à forger des liens aussi forts et à s'y soumettre comme nous nous y soumettons nous-mêmes et les enfants de nos enfants ?»«
Ça dépend. »
« Pelé Kelter. » Kefria se souvint subitement du nom du barbu.
Il lança un coup d'œil aux esclaves comme s'ils avaient déjà discuté du sujet entre eux.
« Nous exigerons des contreparties en échange de notre loyauté. Je peux aussi les exposer maintenant. Elles sont simples et vous pourrez dire oui ou non. Si la réponse est non, je n'ai pas de raison de perdre une marée ici. »
Kefria songea alors à son père qui répugnait tant à perdre son temps en s'imagrer. Kelter attendit et, ne rencontrant pas d'objection, il déclara
« De la terre pour tous. On devrait être propriétaire du terrain sur lequel est bâtie notre maison. Et je n'entends pas par là un bout de plage au sec. Nous sommes gens de mer. Nous ne demandons guère plus qu'une parcelle suffisante pour y construire une maison convenable, un peu de terrain pour élever des poules, cultiver quelques légumes et ramander nos filets. Mais ceux qui ont le goût de cultiver ou d'élever du bétail auront besoin de plus. »
Il promenait le regard autour de la table pour guetter les réactions quand une tatouée déclara
« Pas d'esclavage !»
dit-elle d'une voix enrouée.
« Que Terrilleville devienne un endroit où les esclaves en fuite peuvent se réfugier sans craindre d'être rendus à leur maître. Pas d'esclavage, et de la terre pour ceux qui vivent déjà ici !»
Elle hésita, puis lâcha résolument
« Et que chaque famille ait le droit de vote au conseil !»
Les voix au conseil ont toujours été de pair avec la propriété terrienne,
fit remarquer Naria Ténira.
Mais où cela nous a-t-il mené? À ceci, à cette pagaille. Quand les nouveaux marchands ont réclamé le droit de vote en tant que propriétaires de terres achetées à des premiers marchands ruinés, nous avons été assez inconsidérés pour le leur octroyer.
S'il n'y avait pas eu le conseil, ce sont eux qui gouverneraient la ville à l'heure qu'il est. »
La voix douce et grave de Devouché corrigeait ce que ses paroles pouvaient avoir de blessant.
« Nous avons toujours gardé le conseil des marchands indépendants ?»
intervint Kefria. Elle se sentait influencée par ce qui venait d'être dit, mais elle se devait, selon elle, de sauver les meubles pour Seldon. Elle ne pouvait se contenter de rester sans rien faire, laisser le titre de marchand se vider tout bonnement de son contenu.
« Ne pouvons-nous le garder ainsi ? Avoir un conseil où voteraient tous les propriétaires terriens et un conseil indépendant pour les seuls marchands ?»
Les Kelter se croisa les bras.
Sa voisine lui ressemblait beaucoup, elle devait être de sa famille, songea Kefria.
En ce cas, nous savons tous dans quelles mains restera le pouvoir réel, dit-il à mi-voix. Pas de bride, le droit équitable à la parole.
Nous avons entendu ce que vous demandez, mais pas ce que vous proposez,
rétorqua un marchand. Kefria admira la façon dont il avait éludé la remarque de Kelter, tout en s'interrogeant sur ce qu'ils étaient en train de faire. À quoi bon soulever ces questions? Personne ici n'avait le pouvoir de prendre des décisions définitives. Pelé Kelter reprit.
Nous proposons des bras honnêtes, de l'énergie et un savoir-faire. Et nous demandons la même chose. Être sur un pied d'égalité pour partager le travail de reconstruction de la ville. Nous proposons de participer à sa défense, pas seulement contre les pirates et les Chalcédiens, mais contre Jamelia si besoin est. Croyez-vous que le trône de perles va vous lâcher le collier sans broncher ?
Tout à coup, Kefria saisit clairement les enjeux de la discussion.
Est-il question de nous séparer complètement de Jamelia ? De rester seul entre Jamelia et Chalced ?
Et pourquoi pas ? Demanda Devouché.
On a déjà soulevé la question, marchand de Vestrit. Votre propre père en parlait souvent en privé.
Nous n'aurons pas de meilleure occasion.
Est-ce un bien, est-ce un mal?
Le gouverneur a péri. Le trône de perles est vacant. Les oiseaux en provenance de Jamelia nous ont informés des troubles internes, fomentés par l'armée jamélienne dont les soldes ne sont pas payés, d'une révolte des esclaves et même d'une condamnation de l'État par le temple de Sa à Jamelia.
Le gouvernorat est corrompu.
Quand ils découvriront que le gouverneur est mort, les nobles seront trop occupés à se disputer le pouvoir pour prêter attention à ce que nous faisons.
Ils ne nous ont jamais traités en égaux.
Pourquoi ne pas se libérer maintenant et faire de Terrilville un endroit où l'on pourra recommencer sa vie, où tous les hommes seront égaux ?
« Et les femmes aussi ?»«
C'est sans doute la fille de Kelter, » pensa Kefria. Ils avaient la même intonation de voix.
Devouché la regarda avec surprise. « C'était une façon de parler, Eck, » dit-il doucement.
« Une façon de parler devient vite une façon de penser. »
Elle leva le menton.
« Je ne suis pas ici seulement en tant que fille de Pelé Kelter. J'ai un bateau et des filets à moi. Si cette alliance se conclut, je veux de la terre à moi. » Les gens de Trois Navires savent que ce qu'on a dans la tête est plus important que ce qu'on a entre les jambes. Nous, femmes de Trois Navires, ne céderons pas notre place à côté de nos hommes simplement pour avoir le plaisir de dire que nous faisons partie de Terrilville. Ça aussi, il faut bien le comprendre.
Ce n'est que bon sens, affirma posément Grac Ténira.
Il adressa un sourire chaleureux à Eck en ajoutant « Voyez qui parle ici autour de cette table. » Les femmes fortes sont depuis longtemps dans notre tradition. Certaines d'entre elles sont présentes aujourd'hui. Cette tradition ne changera pas.
Eck Kelter s'adossa à sa chaise.
Avec naturel, elle rendit son sourire à Grag.
« Je voulais seulement qu'on le précise tout haut, »
assura-t-elle. Elle lui fit un signe de tête et Kefria se demanda soudain s'ils n'étaient pas d'intelligence tous les deux. Eck avait-elle parlé en sachant que Grag Ténira la soutiendrait? Et la comptait-il, elle, Kefria, au nombre de ces femmes fortes? Mais son intérêt retomba aussi subitement qu'il avait été éveillé. Elle prit une respiration et déclara
« Que faisons-nous ici? Nous discutons d'accord, mais aucun de nous n'a le pouvoir de rendre ces mesures exécutoires. »
Sa propre mère la contredit.
« Ces derniers temps, nous avons autant de pouvoir que n'importe qui. » Et plus que le conseil, car nous n'avons pas peur de l'exercer. Les membres du conseil n'osent pas se réunir sans la permission de Céry.
et elle n'ose pas la donner sans en référer à Kern. »
Elle adressa à sa fille un sourire amer. « Nous sommes plus nombreux, Kefria, que ceux que tu vois ici. Nous ne pouvions tous nous rassembler de peur d'attirer l'attention. Un des chefs du conseil est avec nous. C'est lui qui nous a informés de la réunion secrète. Après ce soir, nous ne craindrons plus de nous rencontrer ouvertement. Notre force procède de notre diversité. Ceux d'entre nous qui ont été réduits en esclavage ont une connaissance approfondie des nouveaux marchands et de leurs propriétés. Les nouveaux marchands espèrent conserver ce dont ils se sont emparés avec l'aide des gens qu'ils ont tatoués. Les tatoués affranchis vont-ils se battre pour leur maître? J'en doute. Quand les nouveaux marchands seront privés de leurs esclaves, leur nombre sera fortement réduit. De plus, ils ne défendent pas comme nous leur famille et leur foyer. Leur foyer et leur famille se trouvent à Jamelia. Ils ont amené avec eux non leurs héritiers légitimes, mais leurs maîtresses et leurs bâtards pour partager la vie précaire des rivages maudits. Jamelia étant en proie à la révolte, les nouveaux marchands ne recevront pas d'aide de ce côté. Beaucoup vont se précipiter à Jamelia pour défendre leurs biens ancestraux. Il faut aussi songer aux pirates. Il se peut que Jamelia finisse par lever une armée pour nous ramener une fois de plus à l'obéissance. Mais il lui faudra d'abord traverser les îles des pirates. Et ce n'est pas un voyage facile, je ne le sais que trop, malheureusement.
Vous voulez dire que les nouveaux marchands ne constituent pas une menace pour Terrilville?
Demanda Yaniru Prous, sceptique. Ronika eut un sourire amer.
Ils sont moins menaçants que certains voudraient nous le faire croire. Le danger le plus pressant vient de ceux qui, de l'intérieur, cherchent à corrompre les marchands et nos coutumes. Ce soir, nous leur infligerons une défaite. Après quoi, le vrai péril, ce sera Khalsed, comme d'habitude. Pendant que Jamelia se débat dans ses problèmes internes et que nous nous faisons la chasse les uns aux autres avec des épées, Khalsed a tout le loisir de débarquer et de nous asservir. »
Elle parcourut du regard les gens autour de la table.
« Mais si nous nous unissons, nous pouvons leur résister. Nous avons des navires, des vives nefs et les bateaux de 3 navires. Nous connaissons nos eaux mieux que personne. »
« Vous parlez encore d'une cité unie contre Khalsed, et sans doute contre Jamelia, » déclara un marchand. « Nous les tiendrions un certain temps en respect, peut-être, mais à la longue, ils pourraient nous affamer. Nous n'avons jamais été capables de vivre en complète autarcie, et il nous faut des marchés pour écouler nos marchandises. »
Il secoua la tête.
« Nous devons conserver nos liens avec Jamelia, même si cela implique de transiger avec les nouveaux marchands. »
« Il faut transiger avec eux, » approuva Ronika. « Ils ne vont pas tous s'en aller comme ça. Faire des compromis incluant des accords commerciaux avec Jamelia pour un négoce équitable et libre. Mais ces compromis doivent être faits à nos conditions, pas aux leurs. Plus de fonctionnaires de taxes, plus de taxes !»
Elle chercha du regard un soutien dans l'assistance.
« Pas de compromis avec les nouveaux marchands. Une alliance !»
Les regards stupéfaits se tournèrent vers Kefria. Elle était elle-même surprise de s'entendre parler. Pourtant, elle savait ces paroles dictées par la logique.
« Nous devrions leur proposer de se joindre à nous ce soir, quand nous ferons irruption à la réunion secrète de Seri avec les chefs du conseil. »
Elle respira et franchit le pas.
« Demandez-leur carrément de rompre avec Jamelia, de se ranger à nos côtés et d'adopter nos coutumes. » Si Terrilville doit s'unir, c'est aujourd'hui ou jamais. Maintenant. Nous devrions faire parvenir un message à cet ami de Davad. Comment s'appelle-t-il? Mingsley. Il paraît avoir de l'influence sur ses semblables.
Elle poursuivit d'une voix plus ferme.
L'unité est notre seul espoir face à Khalsed et à Jamelia. Nous n'avons pas d'autres alliés.
Un silence découragé accueillit ces paroles.
Peut-être que le dragon nous aiderait ?
La petite voix flûtée de Selden les fit sursauter.
Tous les regards convergèrent vers le garçon assis très droit sur sa chaise. Les yeux grands ouverts,
Il ne regardait personne en particulier.
Le garçon pourrait nous protéger de Calcède et de Jamélia ?
Un silence embarrassé tomba. Enfin, Rayne prit la parole d'une voix chargée d'émotion.
Le dragon ne se soucie pas de nous, Selden. Il l'a prouvé en laissant périr Malta, oublie-le. Ou plutôt, souviens-t'en avec mépris.
C'est quoi cette histoire de dragon ?
Demanda Pelékelter. Naria fit remarquer doucement.
Le jeune Selden a été très éprouvé dernièrement.
Le garçon serra la mâchoire.
Croyez-moi, et croyez le dragon. Il m'a transporté dans ses griffes, et j'ai vu le monde d'en haut. Savez-vous à quel point nous sommes petits, et pitoyables nos œuvres les plus prestigieuses? J'ai senti son cœur battre. Quand il m'a touché, j'ai compris qu'il existait quelque chose au-delà du bien et du mal. Il transcende.
Il avait les yeux perdus dans le vide.
Dans mes rêves, je vole avec lui.
Un silence accueillit ces paroles. Les adultes échangeaient des regards amusés, agacés ou pleins de commisération. Kefria fut piquée par cette réaction à l'intervention de son fils. N'avait-il pas été éprouvé assez durement ?
Le dragon est réel,
déclara-t-elle.
Nous l'avons tous vu. Et je suis d'accord avec Selden. Le dragon peut tout changer.
Ces paroles les scandalisèrent, mais le regard que Selden lui lança la paya de son audace. Il y avait bien longtemps que son fils ne l'avait regardé avec des yeux aussi brillants.
« Je ne doute pas que les dragons soient réels, »
intervint précipitamment Kelter.
« J'en ai vu moi-même il y a quelques années quand je naviguais loin au nord. Ils nous ont survolés, ils étaient comme des joyaux chatoyant dans le soleil. Castel Cerf les avait rassemblés pour combattre les Outriliens. »
« Cette vieille fable, »
marmonna quelqu'un. Pelé lui décocha un regard noir.
Ce dragon est le dernier de son espèce. Il a éclos dans les ruines des anciens juste avant que le marécage n'engloutisse la cité,
déclara Rayne.
Mais il n'est pas notre allié. C'est une créature perfide et égoïste.
Kefria regarda autour d'elle. L'incrédulité prévalait. Les joues roses, Ek proposa.
Peut-être devrions-nous en revenir à notre discussion sur les nouveaux marchands.
Son père donna une grande claque sur la table de sa large paume.
« Non, je comprends maintenant que j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans le désert des pluies. Nous avons été trop longtemps tenus dans l'ignorance de ce qu'il y a en amont du fleuve. Que ce soit le premier gage de franchise de la part des marchands à leurs nouveaux alliés. Je veux un récit complet de cette histoire de dragon et la fin de Malta Vestrit et du gouverneur. »
Un silence pesant accueillit ses paroles. Seul le rapprochement des têtes voilées de Rayne et de sa mère indiqua qu'ils se consultaient. Les autres marchands autour de la table gardaient leur mutisme ancestral. Ils avaient tort. Kefria s'en rendait compte. Mais elle n'y pouvait rien. Le désert des pluies devait seul décider de se révéler ou de demeurer secret. Rayne se renversa en arrière. Il croisa les bras.
« Très bien, alors ?»
déclara Pelékelter d'une voix morne. Il posa sur la table ses larges mains rougies par le labeur et repoussa sa chaise pour se lever. Selden jeta un coup d'œil à sa mère, lui pressa brièvement la main et se mit debout à côté de sa chaise. Cela ne le grandissait guère, mais l'expression de son visage en imposait.
« Tout a commencé, » fit la voix juvénile et flûtée. Quand j'ai dit à Malta que je connaissais une entrée secrète pour pénétrer dans la cité des anciens.
Toutes les têtes se tournèrent vers le petit garçon. Il croisa le regard étonné de Pelékelter.
C'est autant mon histoire que celle des autres. Les marchands de Terrilville et du désert des pluies sont parents, et j'étais là-bas.
Il défia Rayne du regard.
C'est autant mon dragon que le vôtre. Vous vous êtes peut-être tourné contre lui, mais moi pas. Il nous a sauvé la vie.
Il prit une inspiration.
Il est temps de partager nos secrets. C'est ainsi qu'on pourra survivre. »
Il promena les yeux autour de la table. D'un geste brusque, Reine retira son voile. Il rejeta son capuchon, secoua ses cheveux bruns et bouclés. De ses yeux cuivrés, il scruta tous les visages, invitant chacun à contempler les écailles qui soulignaient à présent ses lèvres, ses sourcils et le bourrelet de peau grêlée qui marquait son front. Quand il arriva à Selden, son regard était empreint de respect.
L'histoire remonte beaucoup plus loin que la mémoire de mon jeune cousin, dit-il à mi-voix. J'avais à peu près la moitié de l'âge de Selden quand mon père m'a emmené dans la salle souterraine du dragon.